Je vais donner un exemple de travail avec la Fondation du patrimoine, lorsqu'on a fait l'inventaire de l'Observatoire de Besançon, donc un établissement public, un établissement de recherche. Il y avait le premier directeur avait installé un cadran solaire analématique qui était en très très mauvais état. Et grâce à la Fondation du patrimoine, il a pu être restauré et remis en état. Donc c'est aussi pour les établissements publics, pour des biens publics. Donc je pense que c'est une piste très très intéressante. Hein. Il ne faut pas négliger ce sujet.
Je n'ai pas voulu parler, bien entendu.
Oui, pour rebondir, j'ai surtout parlé du patrimoine industriel, mais il est certain que nous intervenons beaucoup à travers les collectivités. Nous essayons toujours, ce qui est bien lorsqu'on travaille avec une collectivité, avec une mairie, c'est d'avoir une association patrimoniale, la mairie ou la collectivité et la fondation du patrimoine. Voilà, à ce moment, c'est tripartite. Il est certain que nous sommes sur l'Isère depuis 2 ans et demi que je suis à la Fondation du patrimoine. Nous avons surtout des églises, des orgues. Bon, mais tout ça, ce n'est pas... Si, nous avons refait un bâtiment, par exemple, à Monnetier de Clermont pour les eaux thermales. Voilà. Donc, n'hésitez pas à nous appeler... Pardon.
Labellisé patrimoine en Isère.
Labellisé patrimoine en Isère. Oui, le label donné des fiscalisations de la Fondation du patrimoine n'a strictement rien à voir avec le label de patrimoine en Isère. Vous l'avez compris.
Merci. Alain, il est vrai que lorsqu'on peut arriver à travailler intelligemment entre des collectivités, des associations et des particuliers, c'est toujours bénéfique pour tous. Parce que patrimoine en alpin, je le dis souvent, mais nous servons de casque bleu permanent dans la région Rhône-Alpes lorsqu'il y a des conflits entre des municipalités et des associations, et c'est toujours très désagréable quand vous êtes au milieu, vous ramassez des coups de tous les côtés. Donc si on peut arriver à travailler intelligemment, c'est très bien. Donc les questions, n'hésitez pas à poser à vos questions à nos 3 intervenants. Si vous souhaitez des confirmations, derrière vous il y a une question, pensez à vous présenter s'il vous plaît.
Oui, merci de vraiment ces informations que vous nous avez déjà prodiguées, puisque nous sommes souvent de navigants de conserve à Aconit avec vous. La question est une question peut-être un petit peu globale qui peut permettre de passer au niveau opérationnel. Aujourd'hui, nous avons fait inscrire au patrimoine donc un ordinateur, un calculateur analogique des années 50. Et la question que nous nous posons suite aux interventions de ce matin est la suivante. Nous avons des industriels qui commencent à prendre conscience que avoir quelques beaux objets qui permettent d'augmenter le sentiment d'appartenance et surtout de faire venir les jeunes vers des filières qui sont actuellement un petit peu en déshérence, c'est-à-dire que les industriels ne trouvent plus les gens qualifiés pour ce faire, alors que l'on a beaucoup de gens qui se recyclent pas forcément dans des travaux qui sont attendus par les industriels. Donc la question serait la suivante, comment pourrait-on faire un montage, par exemple avec un industriel de l'informatique, pour développer à l'intérieur de l'entreprise la mise en valeur d'un objet symbolique de la tradition de cette entreprise, malgré les changements financiers survenus au niveau de l'entreprise, parce que nous savons que sur le terrain grenoblois nous avons des entreprises qui ont commencé qui s'appelaient F6, ensuite Thomson, ensuite ST, mais que pratiquement on a encore des gens qui travaillent chez ST, qui travaillaient chez F6 et qui ont participé à la réussite du Minitel, qui malheureusement n'est pas forcément présenté comme une réussite malgré tous les emplois que ça a pu créer et les développements avec Freebox et le reste. Mais comment pourrait-on concevoir, comment pourrait-on articuler avec tous les moyens que vous venez de décrire, la mise en place d'un, allez, soyons anglophiles, corner dans une entreprise, c'est-à-dire un objet qui serait dans un coin quand on rentre et qui attirerait l'attention, susciterait, comme dirait notre artiste hier soir, la surprise et l'émotion, et à partir de là, permettrait à l'intérieur de l'entreprise du lien entre générations, et d'autre part, un début de médiation que l'on pourrait développer avec le CCSTI qui, dans ce domaine-là, travaille beaucoup sur les éléments de médiation numérique. Comment pourrait-on arriver à fabriquer une synergie qui serait bonne pour le territoire et pour toutes les couches de la population? Parce que c'est la demande que nous avons eue bien souvent. Lorsque nous avons organisé ces rencontres, il nous a été dit, Alors, vous allez faire plaisir entre spécialistes, là, super, vous allez partir en week-end tranquille. Non, non, nous, on leur dit, c'est pas du tout ça qui nous concerne. Ce qui nous concerne, c'est dans la collectivité, la communauté, c'est d'arriver à faire du lien entre générations et montrer les talents et donner envie aujourd'hui aux jeunes de participer à cette grande aventure qui ne cesse pas. On l'a constaté ce matin, l'industrie 1865 à Grenoble, elle existe toujours. Elles n'ont pas toutes disparu, loin de là. Thalès devait disparaître. On se rend compte ici avec nos amis qui, à tête d'image, se sont bagarrés pendant des années, viennent tout à coup d'obtenir 220 mètres carrés sur le site, avec une vocation à faire venir les jeunes pour savoir ce que l'on fait dans une entreprise et toutes les filières qui existent et les travaux intéressants. Donc, est-ce que... Ma question est peut-être hors propos, je ne sais pas, c'est vous qui me le direz.
Très bien, ben merci. Alors, un exemple concret, avant de donner peut-être parmi nos intervenants s'ils souhaitent répondre, c'est vrai que susciter l'émotion est important. Alors, je prendrai l'exemple de la SEPR, c'est la Société d'enseignement du Rhône à Lyon, qui a 150 ans, qui fêtera son 150e anniversaire l'année prochaine, qui est une société qui enseigne aux jeunes tous les métiers techniques, entre autres, et qui s'est installée sur le site d'une ancienne usine de fabrication automobile, l'usine Rogner-Schneider, qui était après RVI, un site historique, puisque pendant 100 ans, on a fabriqué des voitures sur ce site. Et il y a eu un partenariat avec la fondation Berliet pour exposer dans le hall d'entrée de cette école une voiture René Schneider fabriquée dans ce site-là, hein, il y a une centaine d'années. Donc pour ces élèves, c'est aussi de l'émotion, ça suscite de l'intérêt, parce qu'en plus, les voitures, surtout pour les garçons, c'est toujours quelque chose qui interpelle. Donc voilà, c'est garder la mémoire, la trace, susciter des réflexions, se poser des questions. Donc je ne sais pas si parmi vous, quelqu'un souhaite aller dans ce sens, Madame Cahill-Gérin.
Oui, je rentre complètement dans ce que vous venez de reprendre sur la question de M. Duparchy. Je pense que ces traces, elles peuvent être nombreuses sous toutes sortes de formes. Alors je m'éloignerai peut-être un peu du qualificatif de bel objet que vous avez employé, puisque clairement, ce n'est pas forcément la dimension esthétique qui va donner du sens là. Mais le fait de donner à voir, de tisser avec le quotidien des liens entre le passé et le présent, c'est très important. Après, ça nécessite effectivement de réfléchir quel message on veut faire porter et quels outils on met au service de ce message. Parce que mettre un objet simplement dans un hall d'entrée, je ne suis pas du tout persuadée que ça soit le moyen le plus simple, le plus évident et le plus efficace de faire en sorte que ceux qui passent au quotidien s'y intéressent. Il suffit de voir, de vous interroger, vous, chacun, dans votre réalité quotidienne, combien de fois levez-vous les yeux sur la façade de l'immeuble dont vous sortez ou sur la rue que vous traversez matin et soir pour venir au travail ou pour rentrer chez vous. Pas souvent, voire pas du tout. Et c'est le jour où vous avez quelqu'un d'extérieur qui vous pointe la différence, que vous vous dites « Ah tiens, il y a quelque chose. Ah tiens, j'avais jamais remarqué ce détail. » Donc, il y a effectivement des outils à travailler, mais on sait le faire. Il y a des gens dont c'est le métier. Et j'irai peut-être un petit peu plus loin que cette idée d'objet. C'est-à-dire que je pense que la mémoire, elle vaut parce qu'elle est partagée. Et que sur un site, par exemple, qui est repris, même s'il n'est pas repris à des finalités industrielles, garder une trace dans la conception du bâtiment, garder une trace dans des volumétries, dans des appellations, essayer de transmettre le fait qu'il s'est passé d'autres choses avant et que, eh bien, ma foi, reconvertir, transformer, c'est redonner une nouvelle vie, c'est quelque chose qui permet de faire ce lien et qui va au-delà même de la conviction qu'on peut transmettre à des jeunes de se diriger vers telle ou telle filière. Donc je pense que la vision, elle gagne à être peut-être plus globale encore.
Alors il y a fait que votre réflexion sur l'objet contemporain en termes architecturaux est intéressante parce qu'il y en a quelques beaux exemples en France de sites où on a reconstruit des bâtiments qui ont su rappeler la mémoire du lieu sur lequel ils étaient, avec un geste d'architecte. Certains architectes sont des artistes aussi, ont une belle analyse, et c'est vrai que c'est intéressant aussi pour des lieux comme ça, de se dire à un moment donné, le volume du bâtiment dans lequel on est me raconte quelque chose, me rappelle une histoire. Donc ça peut être ça, vraiment une piste intéressante. Est-ce que ça suscite des réflexions, Monsieur Dabogneau?
je peux juste dire un petit mot. Alors, je vais reparler un petit peu des monuments historiques, puisque c'est quand même toujours ce qui est un peu derrière tout ça. Mais votre question sur le hall d'entrée me faisait penser à... On a déjà été confronté à un certain nombre de collectivités communales, en fin de compte, qui rachetaient ou qui avaient reçu en héritage d'entreprises ou même d'établissements publics de recherche qui partaient des gros objets dont elles se servaient pour animer les ronds-points d'entrée de ville. Alors, il ne faut pas tomber là-dedans non plus. Hein. Alors, je sais bien que c'est en termes d'image que les collectivités peuvent travailler, mais il faut faire attention. L'objet patrimonial ne doit pas être, le prétexte et la locomotive en fleurs qui est à l'entrée de la ville. Hein. Voilà. Surtout quand après, une fois qu'il est installé au milieu du rond-point, on demande à l'État de le protéger, monument historique. Donc il faut faire attention.
Oui, je dirais juste un petit mot. On avait ce matin, il y a plus cet après-midi, M. Raymond, et on a parlé donc du musée fait chez Raymond. Je pense que c'est très intéressant dans ce que vous avez dit, parce que, c'est un musée qui a été fait dans une usine, c'est-à-dire que le musée il est dans des locaux où il y a eu de la production. Donc, lorsqu'on va amener, et je pense surtout à des enfants, parce qu'il faut éduquer les jeunes, hein, les élèves, même en primaire, et puis les adolescents, donc déjà, ils vont être dans un contexte de voir vraiment une usine. Et puis, dans le musée, on va voir des pièces historiques, mais avec une continuité, c'est-à-dire que on va jusqu'aux machines numériques à trois dimensions. Voilà. Donc là, c'est une démarche. Bon, Raymond peut le faire, mais je crois que voilà ce qu'il faut. Il ne faut pas qu'un objet soit pris seul, mais il faut que ce soit dans une continuité, dans une logique. Alors l'éducation, c'est... Bon, je suis peut-être hors sujet, mais ça fait rien, c'est quelque chose d'important. Mais il faut avoir beaucoup de bénévoles, parce que ça ne se fait pas tout seul. Souvent, le monde associatif, ce qui manque, c'est des bras. Nous, je sais que, bon, à Patrimoine et Développement, que j'ai eu le plaisir de présider pendant 8 ans à Grenoble, et mon successeur continue et amplifie, et bravo, cette tradition, nous sommes occupés de créer une section pour faire découvrir le patrimoine aux enfants. Mais on le fait découvrir en allant déjà dans l'école avec la participation des professeurs, hein, des professeurs des écoles, et puis avec des questions, etc. Et les gamins sont intéressés. Et après, on fait du terrain, on le fait autour des fontaines, etc., etc. Donc je pense que tout ce patrimoine industriel passé mérite une telle démarche. Bon, mais le tout, c'est de trouver déjà des usines ouvertes à cela, et puis des gens qui vont s'en occuper. Et c'est là le principal. J'ai oublié tout à l'heure dans la présentation, et je te demande de m'en excuser, Anne, de citer que comme partenaire, bien sûr, nous avons le conseil régional. Général, comme quoi. Hein. Donc, merci. Nous travaillons beaucoup ensemble. Ainsi qu'avec les architectes du bâtiment de France.
Merci beaucoup. Alors, pour aller dans le sens de M. Davoigneau, avec vos collègues du ministère de l'Équipement, alors je ne sais plus si on dit d'ailleurs le ministère de l'Équipement aujourd'hui ou pas, mais nous avions imaginé de décerner un prix du rond-point le plus moche, le plus raté, avec lequel, au milieu duquel on met ces machines industrielles, ces machines-outils, ces foreuses, un peu de tout, voilà. Et qu'on... Une porte, ou voilà. Oui, dans le mauvais goût, on peut aller très loin. Hein, donc, pour dire ça, on a un prix national avec lequel on dessine un prix dans des entrées de ville, les plus belles entrées de ville. Et cette année, c'est la ville de Chambéry qui a été lauréate, hein, pour la restitution de la Lesse, hein, la rivière qui traverse Chambéry. Alors, je fais un peu de la publicité pour vos voisins. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions, alors? Donc, d'autres... Oui.
Oui, moi je voudrais faire un commentaire sur ces questions du patrimoine. Moi je suis d'accord avec l'essentiel de ce qui a été dit, c'est-à-dire en particulier sur la nécessité d'établir des continuités, des contextualisations, etc. Mais néanmoins, je pense qu'il y a aussi d'autres points d'entrée qui peuvent être beaucoup plus modestes, en partant de l'objet. On va faire des travaux pratiques là. Vous avez traversé un local qui appartient à l'université, qui est un local historique, qui est un bâtiment historique, qui compte dans l'histoire de Grenoble, qui a été associé à toute l'industrie chimique, la métallurgie, l'électrochimie, qui aujourd'hui est associé par son enseignement à d'autres branches industrielles. Combien d'objets patrimoniaux vous avez vus en vous baladant dans les couloirs? Où est-ce que vous avez vu un panneau racontant l'histoire du bâtiment? Comment est-ce que vous voulez mobiliser les étudiants, notamment sensibiliser l'étudiant, si vous n'accomplissez pas ces tâches qui sont des tâches élémentaires, fondamentales et qui ne coûtent pas très cher? Donc j'ai discuté hier avec le directeur du département qui nous accueille, et qui me dit faut que tu viennes tout de suite parce que dans nos caves il y a des dizaines d'instruments et qu'on va les mettre à la benne. Et je lui dis mais pourquoi tu les mets pas dans des armoires vitrées dans les couloirs avec des cartels expliquant d'où ils viennent, à quoi ils servaient, etc. Et me dit pas que t'as pas de la place, tes couloirs ils font 4 mètres de large et donc t'as largement de quoi faire. Donc ça fait aussi partie des choses qui sont à mon avis essentielles et qui correspondent à la sensibilité d'un public qui, dans la démarche patrimoniale, est important, c'est celui des jeunes, des étudiants et des scolaires. Donc, on n'y pense pas assez. On a une démarche... Moi, quand je vous écoute, j'ai l'impression... Bon, je suis peut-être un peu provocateur, mais que vous êtes dans une démarche un peu de structure muséale, de grande disposition, etc. Et je pense qu'on peut aussi agir à des niveaux... pas plus bas, mais des niveaux plus simples. Voilà.
Merci. Je me sens que ce Davoigneau, vous sentiez... Voilà.
Faire réagir sur le fait, je pense pas d'abord que ce soit le cartel ou l'exposition qui fait le patrimoine. C'est le regard que vous y portez, vous, ou le regard qui porte des professionnels. Mais justement, je crois au fait que si l'inventaire général est une institution qui a été créée en 64, ça a suscité de la part de la société civile, les associations, toutes ces choses-là, qui maintenant sont... C'est eux qui fabriquent le patrimoine. D'ailleurs, le livre de Nathalie Henisch dont je parlais n'est pas innocent. Ça s'appelle « La fabrique du patrimoine ». Le patrimoine, c'est pas quelque chose qui est fabriqué. Ce qui existe, c'est, oui, des vieux objets, des objets obsolètes, des objets neufs, des objets contemporains. Après, pour que ça devienne du patrimoine, il faut qu'il y ait un discours dessus. Et je ne pense pas que non plus la seule exposition dans le couloir en fait un objet patrimonial. Il faut un regard. Par exemple, ce bâtiment dans lequel on est, moi, bon, peut-être parce que je suis... Oui, c'est mon métier, mais je suis arrivé devant, j'ai dit pas mal, et l'escalier après, je dis vraiment pas mal l'escalier. Et bon, enfin, des choses comme ça, mais ça et ce qu'il faut faire, c'est exercer le regard. Il faut exercer le regard. Par contre, il faut être entendu. Il faut être entendu, et ça c'est pas évident. Hein. Et tout à l'heure, ce qu'on disait me faisait penser, et je finis là-dessus, à une chose. Assez triste, bon, sur les causes perdues au niveau du patrimoine. Bon, il y en a plein, mais par exemple, je ne sais pas si vous avez déjà vu cette émission, moi c'est parce que mon fiston la regarde, une émission qui s'appelle « On n'est pas que des cobayes », où ils font des expériences, vous avez déjà vu ça. Mais est-ce que vous savez dans quel lieu ils font ça? Est-ce que vous savez dans quel lieu ils font ça? Ils font ça dans la manufacture Christophe, dans les labos de chez Christophe. Donc Christophe n'a pas voulu que le bâtiment soit protégé monument historique. Il a bradé même ses moules, ses collections, etc. Les archives municipales ont réussi à récupérer un peu de documentation et quelques moules, mais le bâtiment dans lequel on est, alors on y refait de la science, je ne sais pas comment on peut dire, mais c'est absolument incroyable. C'était les labos Christophe.
Alors ce débat suscite de remarques, de réflexions, et ce que disait tout à l'heure Anne aussi, c'est le regard qu'on porte à un moment donné aux choses. Et moi, je suis toujours moi-même, à titre personnel, surpris de me surprendre, de fois dans des rues que je passe depuis des années, de découvrir quelque chose dont mon regard n'avait jamais été attiré, n'avait jamais accroché. Et pourtant, je suis un passionné du patrimoine, et bien, j'arrive encore à être surpris dans des endroits où je passe depuis 30, 40, 50 ans. Donc, voilà, ça me surprend toujours. Et par rapport à cette problématique qu'on parlait des objets aussi, à un moment donné, lorsqu'on nous interpelle dans des caves ou dans des greniers ou des hangars, des objets industriels, scientifiques, techniques, on nous appelle en urgence, qu'est-ce qu'on peut en faire ? À Patrimoine Rhône-Alpin, on essaie de réfléchir à la création de magasins généraux en région Rhône-Alpes qui nous permettraient d'avoir un lieu pour se poser un moment, pour stocker ces objets et se donner le temps de la réflexion. Non pas pour en créer des réserves hein, ou un lieu de collection, mais avoir un lieu pour les poser en urgence. Hein. Dans l'urgence, avoir le temps de se dire qu'est-ce qu'on en fait. Et si demain, on ne trouve pas de solution, on les jettera. Mais au moins, avoir le temps de ne plus être dans la crise, dans l'urgence. Voilà. Donc, c'est une piste qu'on essaie de porter. Y a-t-il d'autres demandes ? Madame Ostempenko ?
Bonjour, je me suis présentée déjà. Donc, je suis présidente de l'association Sauvegarde et Promotion du Gand de Grenoble. Et je me permets de poser la question, profitant de présence ici de représentants d'État, des fondations, peut-être question un petit peu insolite parce que travaillant beaucoup sur le terrain ces derniers temps, ces dernières années, nous avons vu disparaître de façon dramatique les objets, les lieux, mais aussi les personnes qui ont fait ces objets. Alors nous étions témoignages de disparition lente mais sûre de savoir-faire. Je parle des gantiers, bien entendu. Et pour sauver ce savoir-faire, nous avons organisé un apprentissage sauvage, parce que nous avons tenté d'avoir les aides, ça n'a qu'un succès. Donc, nous avons pris comme exemple le programme de l'école de ganterie de 1910, qui était à Grenoble. Et donc, nous avons eu un cobaye, si vous voulez, donc, qui sacrifie une année de son travail, un jeune homme qui était expert en informatique et qui passait une année donc, à CEDIC, qui avait droit donc, suite à licenciement technique, en faisant 500 heures de travail avec les anciens ouvriers retraités, gantiers, qui ont accepté bénévolement formés. Parmi eux, les gantiers napolitains qui détiennent des secrets séculaires, donc, c'est-à-dire qui ont assurer la transmission de ce métier, et on a fait un diplôme de fabricant de gants, à laquelle étaient invités les gantiers de Saint-Junien, de Millau, etc. Donc c'était un diplôme public, mais non homologué. Et donc actuellement, nous avons une autre personne suffisamment motivée, si vous voulez, parce qu'on fait beaucoup de tri parmi les personnes, parce que c'est très difficile à mettre en route. Alors, pour cette, à qui il faut s'adresser, parce que peut-être ce n'est pas du tout l'objet ici de parler de ça, mais simplement on parle des objets, mais on oublie souvent les personnes qui les ont faits. Donc, à qui on peut s'adresser au niveau de l'État pour avoir les aides de, je veux dire, ce n'est pas apprentissage vraiment, mais c'est sauvegarde des savoir-faire qui, à mon avis, sa place parmi les objets de patrimoine scientifique, technique, contemporain, parce que c'est très technique. La ganterie. Nous avons passé 50 heures chez Raymond pour mettre les boutons de pression, parce que c'était une partie d'apprentissage. La couture, il y a la coupe, il y a la manière, stratégie d'entreprise, il y a l'expérience des disparitions des entreprises ganterie qui est extrêmement pédagogique, qui peut être même aujourd'hui en train d'enseigner à l'école de commerce, parce qu'il y avait les causes objectives et subjectives de disparition de cette industrie, qui sont extrêmement intéressantes. Et une des causes était justement que la ganterie grenobloise a refusé de se niveler par le haut, c'est-à-dire d'être ganterie de luxe. Là, elle aurait pu persister. Et donc, il est pas suffisamment diversifié. Bon, c'est une des causes. Ouais. Mais voilà, donc cet exemple, c'est par rapport à la formation. Donc, j'espère avoir une petite réponse. Et j'ai pris m'excuser si ma question ne va pas complètement hors du sujet.
Non, vous êtes dans le sujet, vous êtes dans la thématique. Hein. Il est vrai que votre réflexion, et Alain en a peut-être déjà un petit peu discuté tout à l'heure, par rapport à cette mémoire autour de cette spécificité grenobloise autour du gant, me fait fortement penser au chapeau de Chazelles-sur-Lyon, comme Alain l'a cité. On est dans cette même thématique, une spécificité sur ce territoire de Chazelles-sur-Lyon, où il y avait quand même 5000 personnes qui travaillaient dans la fabrique de chapeaux sur cette commune qui comptait 5000 habitants. Donc c'était quand même quelque chose de très très important. Et ils ont eu cette démarche de conserver non seulement les machines, mais le savoir-faire. Ils ont collecté la mémoire auprès des ouvriers pour retrouver les gestes pour fabriquer les chapeaux. Et aujourd'hui, ce musée atelier, parce que ce n'est pas qu'un musée, c'est un atelier, on permet aussi de voir comment on fabriquait les chapeaux à partir du poil de lapin jusqu'à la fin, jusqu'à la feutrine. Et aujourd'hui, ce qu'ils ont développé aussi, c'est des ateliers de modélistes. Donc aujourd'hui, on continue à fabriquer des chapeaux à Chazelles-sur-Lyon. On n'en fabrique pas beaucoup, je crois qu'ils en fabriquent 500 chapeaux par an, il me semble, de mémoire. Mais ils ont lancé un concours international de création. Donc c'est ce qui est aussi intéressant. Je pense qu'autour de cette mémoire, autour du gant sur lequel vous vous investissez beaucoup, il peut y avoir ce type de démarche de conservation, non seulement des machines, mais surtout du savoir-faire, de collecter la mémoire. Alors je ne sais pas si parmi vous, monsieur Davergnaud.
Je vais juste faire un peu ministère de la Culture. Là, je vais sortir de l'inventaire, l'inventaire général du patrimoine culturel qui, lui, s'attache aux objets matériels, et donc parler de ce qu'on appelle le patrimoine ethnologique ou le patrimoine culturel immatériel, qui n'est pas vraiment la même chose, puisque au sens de l'UNESCO, le patrimoine ethnologique, c'est quelque chose de plus vaste. Mais il y a quand même, je dirais qu'il y a deux choses. Vous parlez de maintenir la formation. Alors, maintenir la formation, ça ne veut pas être le ministère de la Culture, c'est sûr. C'est plutôt les chambres de commerce, en fin de compte. Hein, c'est vers elles qu'il faut se tourner. Par contre, la seule chose qu'il peut faire, il existe encore via le CNRS et via le ministère de la Culture, des productions de films ethnologiques, hein, de films sur les savoir-faire, ça existe toujours, il y a des subventions qui sont données. Et puis, dans le même ordre d'idées, il y a évidemment les métiers d'art qui sont autre chose. Mais voilà, c'est à peu près les seules choses, hein, qui existent dans ce domaine au sein du ministère. Voilà. La région Rhône-Alpes est une des dernières régions dans lesquelles il y a un ethnologue régional à la direction régionale des affaires culturelles. Profitez-en.
Alors, on m'avait demandé de finir vers 15h. Il est 15h02. On est presque dans le timing. Donc, simplement, ce que je peux vous encourager, Madame Stempenko, c'est que l'année prochaine, de nous accompagner, l'année prochaine, nous allons à Chazelles-sur-Lyon pour faire un séminaire. Donc, c'est venir avec nous pour pouvoir bénéficier de leur enseignement, de leur analyse et de leur réflexion. Voilà. Donc, en tout cas, merci. Pardon. Ah, il y avait une dernière demande. Est-ce qu'on peut prendre une dernière intervention courte? Merci.
Oui, je voulais juste dire, donc effectivement, il y a la mission ethno au niveau de la DRAC, et puis je voudrais quand même dire que les musées ont fait un gros travail par rapport à ça, parce que on ne voit que l'objet présenté avec toute la problématique que ça veut dire, l'objet dans une vitrine. Moi, je veux bien qu'on mette les objets dans la vitrine, là, dans le couloir. Après, quel sens va avoir l'objet? Effectivement, si on n'accompagne pas ces objets par des documents, par des ouvrages, par des plaquettes, les étudiants vont passer à côté et ils ne verront pas ces objets. Ça ne suffit pas de présenter un objet dans une vitrine, ça le sacralise et ça le sépare aussi de... Voilà. Donc, juste pour dire aussi que effectivement, quand on fait des collectes dans les musées, des collectes raisonnées, on va accompagner ces collectes par effectivement des recherches une approche ethnographique, et on va essayer de faire tout un travail, hein, donc au niveau des savoir-faire, de récolte, donc de témoignages. On ne voit que l'objet qui est stocké, soit dans le réserve, présenté dans des collections permanentes ou expositions temporaires, mais on les accompagne donc de tout un travail de recherche. Voilà ce que je voulais dire.
Merci beaucoup pour cette réflexion. Donc on va essayer de clore. Merci en tout cas à nos intervenants, donc de leur participation.